Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 3 décembre et vous écoutez toujours et encore l'émission Drôle de Dame sur fréquence 7, décalée, différente et pas pareille. Alors à 3 semaines des fêtes de fin d'année, synonyme de fêtes de famille, où il fait bon se retrouver ensemble pour partager des moments de joie, de bonheur, autour d'un sapin décoré et illuminé, dans une ambiance chaleureuse, mais aussi autour d'un bon repas, etc. etc. Cependant, à côté de ces moments apparemment magiques, il y a aussi les inondations ici, les sécheresses et les guerres ailleurs, les annonces de plans sociaux, autrement dit les licenciements, comme chez Michelin et Auchan par exemple, l'accès inégal aux soins, la précarité qui oblige les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs à recourir à l'aide alimentaire, etc. etc. Autrement dit, partout des vies humaines sont détruites matériellement et psychologiquement. Alors, le thème de notre émission aujourd'hui sera le bonheur. Et du coup, peut-on être heureux aujourd'hui ? On dit souvent que satisfaire tous ses désirs, c'est être heureux. Et que satisfaire ses désirs, d'ailleurs, c'est chercher à posséder ce que l'on n'a pas. Mais le bonheur se mesure-t-il à la possession ? Est-ce qu'il ne se construit pas dans les rencontres et donc avec les autres ? Bref, le bonheur ou la joie ne se partage-t-il donc pas ? Autrement dit, est-ce qu'on peut penser aussi éventuellement à un bonheur politique ? Parce que, après tout, rappelons-nous que la première constitution de la Première République, en 1793, proclame dans l'article 1 que le but de la société est le bonheur commun. Alors, Daniel, je vais commencer par toi. Tu veux nous faire part d'une conception apparemment intéressante du bonheur, peut-être paradoxale. Tu vas nous en dire quelques mots. Il s'agit de l'économie du bonheur.
Alors, oui. Alors, avant, on va partir d'une définition du bonheur, parce que tu as parlé, tu en as un peu évoqué, mais il y a une définition qui est assez précise et qui correspond, aussi bien sur le plan social que psychologique, à un référentiel, disons. Donc, le bonheur est un état de satisfaction complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. C'est pas parce que je vais m'acheter une belle fringue que je vais pour autant être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur, un plaisir éphémère non plus. Le bonheur est un état global. Et c'est une notion quand même qui est un point de recherche universel. C'est-à-dire qu'il est souvent présenté comme le but le plus élevé de l'existence. Beaucoup de philosophes et de psychologues et sociologues et tout ça en ont parlé au nom de la santé publique, etc. Alors à partir des années 80, la notion d'économie du bonheur s'est construite et développée. Des économistes, notamment anglais et américains, se sont penchés sur le bonheur général dans l'objectif d'aider les politiques. L'économiste anglais Richard Layard affirmait dans un de ses livres que l'objectif essentiel de la politique est d'augmenter le bonheur du plus grand nombre. Il prétend même que les premiers économistes poursuivaient à l'origine cet objectif, mais qu'à défaut de pouvoir le mesurer, il a été remplacé par l'augmentation de la richesse. Selon lui, on dispose aujourd'hui des méthodes et des données pour mesurer le bonheur, ce qui permet in fine de poursuivre cet objectif dans toutes les politiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet économiste Layard, ce qui a déclenché chez lui cette recherche, parce qu'après il va mener des enquêtes très approfondies, d'auto-évaluation sur qu'est-ce que le bonheur, il a découvert, il a commencé à réfléchir à cette notion à partir du moment où il participait à une commission dans laquelle il a découvert l'explosion des maladies mentales chez les jeunes à son époque. Donc c'était dans les années 85-80. Et donc, des taux de suicide, un nombre de consultations pour des troubles mentaux dans les services d'urgence des hôpitaux, des problèmes comportementaux graves des enfants scolarisés, la prévalence de pathologies liées à l'alcoolisme et à la consommation de drogue. Et donc ça l'a vraiment beaucoup intrigué et il a fini par découvrir qu'elles étaient liées à une forte précarité. Donc toute ressemblance avec la situation actuelle de nos étudiants n'est pas fortuite. Layard, donc, et d'autres économistes et chercheurs lancent des enquêtes à grande échelle, très grande échelle, sur la base de l'auto-évaluation. Cela consiste à interroger les gens sur leur perception de ce qui les rend heureux. Et voilà qu'une grande découverte est faite. Les êtres humains, partout dans le monde, ont les mêmes besoins et les mêmes aspirations. Leur image du bonheur est identique et s'appuie sur des critères similaires. Voilà une surprise. Nous serions donc une communauté universelle humaine. Toutes les enquêtes menées par lui et par d'autres, un peu partout, montrent qu'à travers le temps, les âges et les continents, les paramètres du bonheur se mesurent et sont constants. Ils sont au nombre de 7. Le premier, c'est l'amour, les relations amoureuses, les relations sexuelles, le fait de créer une famille qui apporte soutien et réconfort. Le deuxième, c'est la situation financière. Alors, individuellement, les plus riches sont plus heureux que les pauvres. Si on entre dans le détail, on voit que le niveau de bonheur général est plus élevé si les revenus sont plus également distribués. Le travail est le troisième critère, surtout si l'on se sent respecté et utile. Il contribue au bonheur parce qu'il apporte une contribution à la société, il donne un sens à l'existence. Plus il contient d'initiative et de créativité, et plus il est valorisant, ce travail. Évidemment, en quatrième critère, on a la santé. C'est une préoccupation qui est forte, qui peut augmenter avec l'âge. Les ennuis de santé font vraiment perdre la notion de bonheur. Les gens qui ont des maladies chroniques, etc., ont vraiment du mal à parler de bonheur. Pouvoir se soigner et soigner sa famille est aussi un facteur important dans le bonheur. En cinquième, c'est la vie sociale, les groupes, les amis. Avoir des amis, une vie sociale, des loisirs, des vacances. Le bonheur est aussi corrélé au niveau de confiance en soi ressenti par soi-même et qui est corrélé lui-même aux amis et aux activités qu'on peut vivre en dehors du travail. Le sixième point, c'est la liberté individuelle. Alors bien évidemment, dans une démocratie, on a un peu plus de chances. Ça dépend des moments, bien sûr, mais on a plus de chances d'avoir une certaine liberté individuelle. Et le dernier point, ce sont les possibilités de se développer en fonction de ses propres valeurs. Les personnes, par exemple, qui se soucient des autres sont plus heureuses que celles qui ne se soucient que d'elles-mêmes. La coopération et la solidarité les aident à se sentir plus heureux ou heureuses. Un petit clin d'œil quand même. J'y ai pensé beaucoup en lisant tout ça. Le besoin et encore moins l'envie d'être millionnaire ne sont jamais évoqués dans les besoins ou les aspirations. Voilà qui a dû décevoir beaucoup M. Macron.
Alors du coup, Daniel, il semblerait que dans ce que tu affirmes, le bonheur finalement ne soit pas dans la possession, puisque, comme tu l'as dit, tu viens de balayer d'un revers de main l'idée selon laquelle les jeunes ou moins jeunes aspireraient à être extrêmement riches, donc à courir après l'argent, mais plutôt dans l'être. Alors justement, moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire pour finalement nourrir ta réflexion à partir d'une conception philosophique qui paraît être d'un autre temps, mais qui en réalité est largement d'actualité et qui en plus met un coup à toutes celles et ceux qui pensent que... par exemple, la personne dite matérialiste, celle donc qui courrait après l'argent, etc., ne serait pas heureuse. Alors, pour quelle raison ? Tout simplement parce que déjà, on véhicule une conception complètement erronée de ce qu'on entend par la philosophie ou la pensée dite matérialiste. Et je veux ici justement parler d'un auteur qui s'appelle Épicure, peut-être que vous en avez entendu parler, philosophe grec, qui peut se ranger effectivement parmi les matérialistes. Et donc, contrairement aux idées reçues, les matérialistes ne sont absolument pas des personnages qui sont identifiés à des sortes de jouisseurs illimités qui se vautraient, pardon pour l'expression, qui se vautraient dans une espèce de plaisir charnel, et donc qui n'auraient pas de morale, qui seraient même complètement immoraux, qui courent après la possession, l'argent, etc. Bien au contraire, les matérialistes sont ceux qui sont justement capables, par une attitude rationnelle, par la connaissance d'ailleurs rationnelle de la nature, de se libérer de tous les préjugés, de toutes les influences, de toute forme d'obscurantisme, dans une certaine mesure, pour justement se libérer de l'ignorance et donc prendre sa vie en main. Alors vous allez me dire, quel est le lien avec le bonheur ? Et bien précisément, pour Épicure, il y en a un. Alors, pour quelle raison ? Parce que tout simplement, si, dans son texte le célèbre, qui s'appelle « La lettre à Ménécée », il affirme que le plaisir est le principe et le but de la vie bienheureuse, il ne dit pas qu'il faut justement satisfaire tous ses plaisirs, absolument tous ses plaisirs, hein, sinon ça serait contraire justement à la pensée dite matérialiste, c'est-à-dire que sa philosophie ne serait pas la base, enfin n'est pas la base, pardon, hein, d'une sorte de philosophie libertine, comme on aime parfois à vulgariser. Mais en fait, il exprime le fait que nous sommes d'abord des êtres vivants, et ça renvoie en fait à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire par être vivant, il faut entendre justement les individus qui vont être soucieux de leur santé, de ce qu'on pourrait appeler les besoins nécessaires, et qui seront justement le point de départ pour accéder précisément à une vie heureuse. Ça, c'est déjà la première idée. Et la deuxième étant que les êtres vivants, ce sont donc des individus qui ont leur corps en relation avec le milieu extérieur et qui, par conséquent, réagit ou agit aux affections éprouvées au contact de ces relations avec ce milieu. Et donc, comme tout être vivant, l'homme éprouve de la peine ou éprouve du plaisir. Finalement, hein, c'est bien le principe de la vie. Donc, pour lui, tout plaisir est un bien, toute douleur est un mal. Donc, tous nos comportements vont se définir en fonction de la peine ou du plaisir. Donc, de fait, hein, il ne s'agit pas de juger, mais de sentir. Et à partir de là, hein, il va examiner le fait que nous fuyons la douleur, et parce que nous sommes dotés d'une mémoire, nous cherchons un plaisir que nous n'avons pas ou plus. Et c'est à partir de là qu'il va examiner l'idée selon laquelle si le plaisir est le point de départ, justement, et même le principe, et aussi le but d'une vie bienheureuse, le plaisir suppose un calcul rationnel. Alors, très rapidement, il s'agit en fait d'apprendre à distinguer ce qu'il appellera les désirs qui sont nécessaires et naturels, d'autres qui seront naturels mais pas nécessaires, et enfin, tout ce qui est complètement vain, c'est-à-dire ni naturel ni nécessaire, comme justement courir après les honneurs, la gloire, la fortune, etc., parce que ce sont des choses d'ailleurs qui ne dépendent pas de nous. Et donc du coup, le rôle de la raison ici, hein, ratio, ça veut dire calculer, le rôle de la raison, c'est donc savoir accepter ou rejeter un plaisir en interprétant la quantité de plaisir qui peut en résulter. De sorte que Épicure nous invite à la modération. Alors attention, ce n'est pas une modération où justement il s'agirait de répondre à des espèces de prescriptions morales, des injonctions de consommation d'ailleurs, hein, qu'il faudrait consommer ceci ou cela pour être bien, pour trouver son équilibre, etc. Pas du tout. C'est une éthique en fait de la vie, c'est un travail sur soi. Et les partisans donc, de la modération, donc comme Épicure, hein, expliquent que l'état de bonheur se réalise justement dans la quiétude, dans l'absence de crainte. De sorte que être heureux, c'est déjà éviter de souffrir. Et on sent justement le lien avec la question de la raison qui va calculer et qui va réfléchir en fait à l'action que l'individu va engager pour justement accéder au plaisir, afin d'éviter de souffrir. Donc il n'y a pas de règle toute faite prescrite, c'est à nous et à nous seuls en fait, d'examiner en nous comment nous pouvons justement atteindre cet état d'équilibre, c'est-à-dire qu'il définit encore une fois hein, comme par l'évitement de la souffrance. Et donc de fait, il est bien évident que Épicure s'inscrit à l'opposé justement de nos sociétés de consommation qui, elles, a tendance à considérer que le bien-être est procuré par une espèce d'accumulation d'objets dont on va jouir et qui serait une espèce de satisfaction éphémère d'objets qui seraient utiles et qui, du coup, satisferaient et donneraient une satisfaction permanente. Et comme tu l'as rappelé, Daniel, d'ailleurs, au début, du coup, ça veut dire que le bonheur, c'est un état global. Et ça, c'est extrêmement important pour Épicure et d'autres. Hein. Ce sera absolument pas le seul. Et donc, du coup, hein, il considère bien que le bonheur, c'est plutôt dans l'être et dans l'avoir. Et pour terminer, je voudrais justement dire que pour lui, la seule prescription qu'il donne, c'est presque... c'est ça, c'est une éthique de vie hein, qu'il essaye d'examiner. La seule prescription qu'il donne, c'est justement, agir avec, sans modération, c'est justement d'avoir des amis. L'amitié pour lui est considérable parce que, en partageant justement des plaisirs simples avec les autres, j'augmente mon bonheur et du même coup, je vais augmenter d'ailleurs le bonheur de la communauté tout entière. Mais on l'aura compris, si être heureux, c'est éviter de souffrir, alors il est impératif que ce qu'il appelle les désirs nécessaires et naturels soient remplis, c'est-à-dire les besoins essentiels. Donc la santé, le nécessaire pour déjà bien vivre.
D'accord. Eh bien, c'est très clair parce qu'en fait, ça vient complètement corroborer les découvertes de ces chercheurs qui ont vraiment mis le doigt sur l'essentiel. Et merci à Épicure qui était quand même un visionnaire. Donc, pour compléter sur Layard, il considère que, on est dans les années 85-90, il considère que notre vie est fondée sur des croyances dépassées. C'est-à-dire qu'on considère toujours que la sélection naturelle de Darwin et la main invisible du marché, la concurrence libre et non faussée, oblige à être égoïste pour survivre. Or, c'est faux. L'individualisme, comme le disait si bien Épicure, n'apporte pas le bonheur et il rend l'individu plus, très inquiet. L'idée fondatrice de la compétition généralisée de Darwin est aujourd'hui d'ailleurs battue en brèche par les scientifiques. Au fond des mers, sous la terre, dans nos intestins, partout dans le monde, les êtres vivants survivent bien mieux s'ils tissent entre eux des relations de coopération et de mutualisme. Et on est loin de cette concurrence. Voilà qui met à mal l'un des dogmes les mieux établis du siècle, mais ce n'est pas dans l'intérêt du capitalisme de le remettre en cause. Donc globalement, la montée des attitudes individualistes et égoïstes, l'érosion de la confiance dans autrui, tout ça, ça érode le quota de bonheur d'une société donnée. Bon, alors les mesures que préconise Layard, qu'il communique aux politiques, puisque c'est aux politiques de chercher d'établir ces mesures, sont parfaitement traditionnelles. La lutte contre la pauvreté et l'isolement social, la promotion d'un meilleur équilibre entre le travail et la vie familiale, une taxation plus forte des revenus élevés et la réduction du chômage et de l'insécurité. On est très loin aujourd'hui d'être dans cet ordre politique-là, hein, parce que comme de très nombreux économistes, même s'ils reconnaissent les dégâts causés par les inégalités, ils ne remettent guère en cause le capitalisme et ses excès. Voilà. Il n'y a aucune radicalité réelle dans l'ensemble de ces mesures. D'ailleurs, aujourd'hui, on entend des économistes prétendre que, quand un pays s'enrichit, les gens ne sont pas plus heureux. C'est-à-dire, messieurs les économistes, qu'un PIB qui augmente n'est en rien le signe d'une meilleure répartition des richesses. Quand seuls les riches s'enrichissent considérablement, c'est plutôt le signe d'un accroissement, d'un creusement des inégalités. C'est ce que dit d'ailleurs le rapporteur spécial des Nations Unies, hein, qui fait un rapport là-dessus assez conséquent. Voilà. Donc l'économie du bonheur aujourd'hui, elle est dévoyée, c'est-à-dire qu'on renvoie les gens à eux-mêmes. S'ils ne sont pas heureux, c'est de leur faute. Hein. Ils ont qu'à se payer des séances de bien-être, une thérapie, un coaching. Voilà, hein. Maintenant, le bonheur collectif, penser aux autres, ça devient quand même assez rare, malheureusement. L'individualisme forcené, si vous n'êtes pas heureux, c'est entièrement de votre faute. Le volet social, humain et politique est occulté et même manipulé. Les chômeurs sont des fainéants, les maladies abusent et sont un coût pour la société, les jeunes n'ont qu'à se débrouiller pour faire des études, c'est l'avenir du pays mais on s'en fiche un peu, les vieux et les petits-enfants sont source de profit pour le capitalisme, pour le privé.
Bien, merci Daniel pour cette intervention sur l'économie du bonheur. Alors si on a bien compris, être heureux, c'est justement, ça se trouve dans l'être et non pas dans l'avoir. Et justement, toi Vincent, tu voulais répondre à l'idée selon laquelle finalement la musique pouvait adoucir les mœurs et donc rendre heureux.
Tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet universel qui traverse les âges, les cultures et les générations, c'est bien évidemment la musique. Comme l'a rappelé Florence. La musique, elle est présente partout autour de nous. Et pourtant, trop souvent, on oublie à quel point elle peut être un véritable catalyseur de bien-être. Que ce soit en train de prendre notre café le matin, de faire du sport, de cuisiner ou même de se détendre après une journée stressante, La musique est là, discrète mais puissante, prête à changer notre humeur en un instant. Alors, qu'est-ce qui fait de la musique une source aussi forte de bonheur? La première chose que la musique nous apporte, c'est une connexion immédiate à nos émotions. Une chanson joyeuse, par exemple, un rythme entraînant ou une mélodie douce. Dès que les premières notes vont résonner, elles vont en quelque sorte changer des choses en nous. Il n'est pas rare de se retrouver à sourire sans raison apparente, simplement parce qu'une chanson nous a pris par surprise à réveiller en nous une joie instantanée. Prenez un morceau de funk ou de pop et voyez comment il peut transformer votre humeur en quelques secondes. Là, on était avec François Cluzet et Omar Sy. On était dans Intouchables, on avait envie de danser. Et ça se trémoussait dans le studio et dans la cabine avec Sylvain sur ce beau morceau. La musique, du coup, comme on a pu en témoigner là, elle agit directement sur notre cerveau. Les rythmes rapides, les harmonies joyeuses, tout cela déclenche la libération d'endorphines, ces fameuses hormones du bonheur. Et en un instant, la musique devient un antidote au stress. Un booster de morale, elle fait sauter les barrières de la morosité et invite la joie dans notre quotidien. Mais la musique ne se contente pas de nous rendre heureux à travers des airs entraînants. Elle a également cette capacité fascinante à exprimer ce que l'on ressent. Parfois, on a du mal à mettre des mots sur nos états d'âme. Et la musique nous aide à le faire. On se reconnaît dans une chanson qui parle de nos peines, de nos rêves, de nos espoirs. Elle devient le miroir de notre intérieur, l'expression de ce que l'on ne sait pas forcément comment dire. Un morceau triste peut nous réconforter dans les moments difficiles en nous montrant que l'on n'est pas seul face à nos émotions. Au contraire, une chanson de joie peut amplifier notre propre bonheur, l'exprimer de manière plus forte et plus pure. Quand la musique devient le véhicule de nos sentiments, elle nous aide à accepter et à vivre ces émotions pleinement, ce qui, paradoxalement, peut nous rendre plus heureux. L'une des choses les plus belles que la musique nous apporte, c'est la connexion avec les autres. Une chanson qui nous touche profondément peut aussi toucher ceux qui nous entourent. Vous êtes nombreux à avoir vécu ce moment magique lors d'un concert, lorsque tout un public chante ensemble, à l'unisson, cette chanson qui vous fait vibrer. C'est un bonheur collectif, une sorte d'unité créée par la musique, qui nous rappelle que, bien que nous soyons différents, nous partageons des émotions communes. La musique crée un lien invisible, mais puissant entre les individus, et c'est là une des grandes sources de bonheur. Ce bonheur partagé peut aussi être plus intime, chanter en famille, danser avec des amis, écouter de la musique avec votre partenaire. Ces moments où la musique réunit les gens sont des instants de pure joie, de complicité, qui restent gravés dans nos mémoires bien plus longtemps que d'autres souvenirs. La musique, c'est aussi un refuge de sérénité. Du coup, la musique n'est pas seulement là pour exulter la joie, elle peut aussi être un refuge de sérénité. Qui n'a jamais écouté un morceau apaisant après une journée difficile? La musique douce, calme, avec ses accords légers et ses rythmes lents, peut nous aider à relâcher la pression, à chasser les pensées négatives et à trouver un espace de tranquillité intérieure. Elle devient alors un outil de relaxation, un moyen de méditer, de se recentrer sur soi-même. Certaines musiques, comme la musique classique ou certaines musiques de relaxation, sont prouvées pour réduire le stress, améliorer la concentration et favoriser un sommeil réparateur. Enfin, la musique peut aussi être un moyen de cultiver un bonheur plus durable. La pratique musicale, que ce soit en jouant d'instruments ou en chantant. En conclusion, alors, qu'est-ce qui fait de la musique une source inépuisable de bonheur? Peut-être que la réponse réside dans sa capacité à nous toucher là où les mots ne peuvent pas toujours aller. La musique a le pouvoir de transformer une journée banale en un moment de joie intense, de nous aider à exprimer nos émotions les plus profondes, de créer des liens puissants avec les autres et de nous offrir des moments de paix intérieure. Elle nous rappelle à chaque note que le bonheur est là, à portée de main, et qu'il suffit parfois de fermer les yeux, de se laisser emporter par la mélodie et de se laisser aller à la joie simple qu'elle procure. Alors, cher auditeur, la prochaine fois que vous aurez besoin d'un peu de bonheur, mettez vos écouteurs, laissez une chanson envahir votre espace et laissez la musique faire son travail.
Merci beaucoup, Vincent. Alors, Claude, je voudrais savoir si tu peux confirmer la citation de Montaigne qui explique que le profit de l'un est le dommage de l'autre. Autrement dit, le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres.
Que nous fait encore Macron ?
Alors, Macron veut encore nous faire les poches. Nouvelle saignée budgétaire, 60 milliards d'euros. Il va les trouver. Les retraités attendront pour la revalorisation de leurs pensions. Le prix de l'électricité va encore augmenter. 4000 postes en moins pour l'éducation nationale. Frais de santé moins remboursés. J'ai pas pu mettre toutes les méchancetés qu'il allait nous faire. On n'a pas le temps.
Il paraît que Retailleau bombe le torse.
Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a déclaré « Je veux qu'un dealer ne puisse pas rester dans le secteur où il dealait. Ce que je veux, c'est qu'un voyou qui roule dans une grosse cylindrée soit obligé de dire comment il l'a financé. » Réponse à Monsieur Tolérance Zéro. Un milliardaire qui pratique l'évasion fiscale, ben, il doit être puni, propriété saisie. Un industriel qui délocalise le siège de ses sociétés pour éviter l'impôt, on nationalise. Un grand patron qui touche des aides de l'État substantielles pour favoriser l'emploi, mais qui les reverse en dividendes à ses requins d'actionnaires tout en licenciant les travailleurs, il rembourse. Michelin, en 2019, reversait 20% de ses bénéfices aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est 48%. 1300 personnes licenciées. Les actionnaires ont empoché 1,4 milliard d'euros de dividendes. Même situation chez Auchan, Ma France, ça fait que j'allais le faire. Valeo, Renault Alpine, Sanofi et Yara. Voici la morale du monde capitaliste. Il faut reprendre l'argent aux multinationales.
Sécurité, liberté individuelle, que se passe-t-il ?
Depuis 2015, le ministère de l'Intérieur a acheté et fourni à la police le logiciel de surveillance Briefcam. Le député Aurélien Saint-Toul a saisi la justice. Briefcam, qui contrevient à la loi informatique et liberté, a été utilisé pour ses fonctions de reconnaissance faciale, usage pour lequel il n'existe aucun fondement juridique.
L'horreur continue en Palestine ?
Oui, un chirurgien raconte l'horreur du génocide à Gaza. Un chirurgien britannique revenant de Gaza évoque un ciblage répété et quotidien de tirs de drones sur des blessés à terre et aussi des enfants. C'est clairement un acte délibéré exigeant le cessez-le-feu à Gaza.
Tu veux nous parler d'un article ?
Oui, très rapidement, l'article de la Tribune de jeudi 7 novembre parlant des problèmes locaux à Aubenas. On laisse des enfants dormir dans la rue. L'association d'hébergement d'urgence Solène à Aubenas tire la sonnette d'alarme. Depuis le début de l'année, elle a été contrainte de refuser l'aide à plusieurs demandeurs accompagnés de jeunes enfants. En cause, le durcissement des conditions d'accueil en France. En France, 2800 enfants sont à la rue, 700 âgés de moins de 3 ans. Nous vous rappelons que la campagne des Restos du Cœur a commencé et que, comme chaque année, ils comptent sur vous, ils ont besoin d'aide. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il a filé.
Voilà, Drôle de Dame, c'est fini aujourd'hui. On se retrouve l'année prochaine, en 2025. D'ici là, soyez heureux.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.